7h10, le 7-10 avec Adrien Taufolet sur le Move.
Et ce matin, notre invité, c'est Yvan Godet, directeur de la rédaction d'Humanoid Magazine. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Tout nouveau magazine, un trimestriel qu'on pourrait qualifier alors de magazine de la société connectée ou de magazine sociétal déconnecté.
Ah oui, nous on dit magazine papier de la société numérique pour bien insister sur le fait qu'on est un petit peu en décalage. C'est d'ailleurs la tagline du magazine, à contresens sur l'autoroute de l'information.
Oui.
Donc c'est ça, c'est un magazine de société, mais sur la société technologique.
Mmh.
Un magazine qui envisage la technologie non pas comme un sujet en elle-même, mais qui envisage plutôt ses impacts, ses effets.
Sur la société, en
exactement.
Sur la culture.
Surtout, parce que le fil rouge, c'est la technologie, mais... La technologie mène surtout aujourd'hui dans notre société, elle irrigue absolument tout. Imaginez les inrecuptibles dont le fil rouge ne serait pas la culture, mais la technologie. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut faire, un news magazine dont le fil rouge est la technologie.
D'accord. Et donc justement, alors vous parliez de la tagline à contresens. Alors pourquoi contresens ?
Alors à contresens parce que on est sur papier et pas sur le web, ce qui en étonnait plus d'un, mais nous on y tient. À contresens aussi parce que on a un ADN qui est un peu dans la dérision, dans le second degré, qui est assez loin des techno-idolâtres ou des futurologues professionnels. Donc nous, notre équipe, c'est des gens qui sont passionnés de technologie, mais qui savent aussi ce que c'est que le marketing et comment on cherche un peu à nous enfler.
Ouais. Donc, vous rejetez un petit peu l'idée d'être catalogué dans la presse high-tech, comme on
absolument,
peut dire.
Absolument. Ouais. C'est pas du snobisme. Hein. C'est juste que nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est la société. Donc, la technologie est un fil rouge, mais c'est juste une irrigation. C'est pas le sujet en lui-même, finalement. Le sujet en lui-même, c'est le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, eh bien, il est numérique.
Voilà. Alors, comment est née l'idée de faire ce magazine? Parce que donc, faut peut-être préciser d'abord que vous êtes directeur de la rédaction de ce nouveau magazine, mais que vous dirigez aussi la rédaction du magazine Canard PC, entre autres.
L'idée est venue il y a environ un an, puisque on édite aussi un trimestriel qui s'appelle Canard PC Hardware, alors qui est là très très pointu sur l'informatique, les composants électroniques, etc. Et on cherchait une idée pour parler de choses un petit peu plus générales, pour pas être enfermé dans ce créneau-là. Donc c'est à partir de cette réflexion qu'est venu petit à petit le concept d'Humanoid, jusqu'à ce que de fil en aiguille, de discussion en discussion, on évolue vraiment vers quelque chose qui se détache le plus possible du gadget et du matériel pour parler de la technologie comme d'un phénomène de société.
Ne bougez pas, on continue tout de suite cette interview juste après Daft Punk. Toujours en compagnie d'Yvan Godet, directeur de la rédaction d'Humanoid Magazine, toute nouvelle revue papier comme on le disait juste avant. Alors Yvan, est-ce que ça a du sens de faire un magazine papier sur les nouvelles technologies alors qu'on l'imaginerait plus en numérique? Est-ce que la société connectée en a envie? Est-ce qu'elle est prête pour un magazine de ce type?
Ah oui, moi je vois pas pourquoi elle le serait pas. L'idée c'est aussi que aujourd'hui l'information high-tech, l'information technologique, elle est traitée sous le mode de l'épiphénomène. C'est-à-dire que soit on a des sites spécialisés qui font du gadget, de la news, des nouvelles sorties et des tests, ce qui est très bien, mais ce qui est quand même une vision assez réductrice de cet ensemble. Soit on a des magazines généralistes qui finissent par se dire « Oh là là, il y a quand même quelque chose qui se passe, on va faire une rubrique technologie dans laquelle on va mettre les jeunes journalistes qu'on a là qui viennent du web, et parce qu'il faut bien leur donner quelque chose à faire. » Non, je plaisante un peu. et du coup, des nouvelles qui nous semblent extrêmement importantes sont en fait, dans la presse généraliste, relégués dans des rubriques qui sont considérées comme annexes.
Soit c'est trop pointu, soit c'est survolé.
Exactement.
En fait.
Et du coup, on a des informations qui sont des informations extrêmement importantes pour une ou deux générations, la mienne, la vôtre, qui sont connectés toute la journée, qui ont un smartphone et qui savent très bien que suivre les évolutions technologiques, c'est vital du point de vue personnel, parce que ça a des implications sur leur vie, mais aussi du point de vue professionnel, parce qu'on sait tous que dans 2 ou 3 ans, notre métier aura changé, tous. Et on sait aussi par des études que les bacheliers d'aujourd'hui, qui viennent d'avoir leurs résultats, d'ici qu'ils soient sur le marché du travail, 60% d'entre eux auront un métier qui n'existe pas encore. Donc c'est un besoin vital. Et aujourd'hui, il nous semble que la presse généraliste le traite pas comme il faudrait pour une question de lenteur et de, aussi certainement de génération.
Il y a une expression que vous utilisez dans votre édito que je trouve assez amusante et pertinente sur cette idée de génération connectée. C'est comme ça qu'on nous définit au final. Une expression d'un ancien ministre de l'Intérieur qui qualifiait les gens de petits sauvageons qui vivent dans le virtuel.
Ouais.
C'est exactement ça. C'est vraiment ça, cette génération.
Je pense cette génération. C'était Jean-Pierre Chevènement. C'était dans les années 90 et cette génération-là aujourd'hui elle a 30 ans. Alors effectivement à l'époque elle en avait disons 15 et elle s'est sentie visée parce que voilà, c'était les jeux vidéo qui avaient encore une très mauvaise image, donc on imaginait ces jeunes gens qui savaient pas ce que c'était que le Montréal, qui confondaient les deux. Aujourd'hui, ils en ont 30 et ils confondent pas du tout. Ils savent que c'est eux qui ont raison. La technologie a rattrapé le monde réel. Donc oui, c'est cette génération-là, celle que les marketeurs et les théoriciens appellent la génération X et puis la génération Y. Donc en gros, les enfants des gens qui ont vécu 68 et puis la génération d'après. Ceux-là, soit ils ont découvert Internet à leur adolescence, soit ils ont toujours vécu avec. Et ça fait une énorme différence. Donc aujourd'hui, un magazine comme Humanoïde, il s'adresse à des gens qui ont un smartphone. Et si on a un smartphone, on s'intéresse à énormément de choses qui sont jamais traitées dans la presse traditionnelle.
Mais pour autant, donc il y a une volonté de pas être pointu, de pas survoler, et il y a aussi une volonté de parler pas seulement donc à une génération connectée, mais à essayer de dépasser cette frontière et de parler des technologies à tout le monde de façon la plus amusante et la plus compréhensible, en fait.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que oui, on s'adresse. D'ailleurs, on va savoir bientôt, parce que tant qu'on n'a pas de lecteur, on ne sait pas. Mais nous, dans notre idée, c'est 25-45 ans. C'est des gens aussi bien qui peuvent être passionnés et sur le net toute la journée que d'autres qui sont intéressés, certes, mais pas forcément passionnés à ce point-là. Mais qui savent que c'est important. Et on utilise un langage simple. On essaye de mettre en valeur notre savoir-faire, qui est celui de journaliste spécialiste des technologies, mais au service d'une presse magazine, qui est une presse d'information et aussi de divertissement, parce que voilà, il faut que ce soit quand même un peu séduisant, il faut que la maquette soit jolie, il faut que on passe un bon moment, sinon on n'achète pas.
On continue à discuter avec Yvan Godet toute cette heure, mais juste avant, alors ne bougez pas, on va s'écouter un petit peu de musique, Caribou, tout de suite sur le Move. On parle d'Humanoïde Magazine avec son fondateur Yvan Godet depuis ce matin, magazine qui parle pour la génération connectée, avec un ton assez léger, humoristique parfois. Ce ton, est-ce que c'est volontaire et indispensable selon vous, Yvan ?
Enfin, nous, en tout cas, c'est notre ADN. Donc, j'ai presque envie de vous dire, on ne sait pas faire autrement. C'est pas pour autant qu'il va y avoir de la blagounette à chaque
Bien
paragraphe.
Sûr. Enfin,
l'idée, c'est quand même d'être sérieux sur le fond et d'être un peu distrayant sur la forme, parce que c'est ce qu'on aime faire nous, c'est ce qu'on aime lire nous. C'est aussi prendre en compte des habitudes de lecture moderne. Alors moi, je crois pas du tout que le net supplante le papier. Par contre, je trouve qu'il y a des choses sur le net qui se font et qui montrent qu'il y a un goût et qu'il y a une évolution des habitudes de lecture qu'il faut absolument prendre en compte dans le magazine. C'est pour ça que le magazine, il propose des dossiers qui sont longs, qui sont fouillés, et aussi des articles qui sont plus courts, qui sont plus visuels et qui correspondent à cette lecture un peu moderne de j'ai pas forcément envie de toujours me mettre dans 20 minutes de lecture à fond. Alors on fait pas du BuzzFeed sur papier, hein, ce serait totalement ridicule, mais par contre on tient compte de cette modernité-là et de ce goût-là pour la distraction et pour l'information. Chaque élément qui est distrayant dans le magazine a un fond qui est tout à fait sérieux et qui est informatif.
Est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle de magazine, parce que souvent on vous compare à Wired, le magazine sur les nouvelles technologies, magazine américain. Est-ce que ça a été une inspiration ou vous avez essayé de vous démarquer justement de ça?
Les deux, en général. Wired, c'est un magazine américain de la Silicon Valley qui a été créé il y a 20 ans par un type très fort qui s'appelle Chris Anderson. Et qui est, c'est un pionnier, donc en ce sens-là, c'est forcément un modèle, qui est effectivement un magazine qui est très ambitieux sur deux points de vue, à la fois sur la forme, puisque graphiquement, c'est vraiment, ils ont pris des graphistes extraordinaires et ils les ont laissés se déchaîner, donc les pages sont absolument magnifiques. Et puis, c'est le pionnier, effectivement, dans l'information technologique et dans le défrichage des tendances de la Silicon Valley. Mais on peut pas, enfin nous, c'est pas ça qui nous intéresse. D'abord, le magazine est devenu un petit peu la Silicon Valley par la Silicon Valley, ce qui est pas très intéressant en France. Ensuite, c'est vraiment très orienté sur les startups, les fonds d'investissement, le capital risque, etc. Ça nous semble pas non plus la partie la plus intéressante de l'affaire.
Oui, oui.
Donc, par contre, ce qu'on reprend volontiers, c'est Chris Anderson qui a posé de fait dans Wired de dire que la technologie c'est bien, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal c'est tout ce qu'elle implique. Mmh. Donc ça, on le reprend à notre compte évidemment. Mais pour la petite histoire, quand on a créé le magazine et que ça commence, qu'il a vraiment commencé à prendre forme, on se disait entre nous surtout c'est tabou, on ne cite pas Wired. Et bon, c'est impossible parce que comme vous, à chaque fois qu'on parle du magazine, tout le monde nous demande de nous positionner par rapport à ce magazine-là
bien
qui
sûr,
est pas très connu en fait parce qu'il est pas distribué en France, mais qui chez les gens qui sont un peu technophiles, a un écho et une stature. Voilà. Ouais, donc on est obligé de se définir par rapport.
On reprend cette discussion dans quelques instants. D'abord, on s'écoute un petit Jet. Are you gonna be my girl? Yvan Godet est toujours avec nous. On parle un petit peu du contenu de ce premier Humanoid Magazine avec dedans beaucoup de sujets dont on a entendu parler ces dernières semaines dans l'actualité quand même.
Oui, alors on fait un grand bilan des révélations d'Edward Snowden sur le système de surveillance de la NSA. Je pense que c'est pas, alors on n'a pas de scoop, hein. On n'a pas, c'est pas nous qui avons interviewé Snowden. Mais par contre, il y a quelques erreurs qui ont été faites dans la façon dont ça a été retranscrit en France, qui ont été corrigées par d'autres depuis. Mais ça valait le coup de faire une espèce de synthèse,
synthèse, je pense.
Et puis de montrer aussi comment finalement c'est aussi, et ça justifie notre histoire de fil rouge sur la technologie. C'est aussi une manière de faire du journalisme qui pose deux trois questions, la façon dont sont traitées cette affaire, dont sont traitées les conséquences de cette affaire, et c'est quelque chose qui débouche sur une idée et un sujet beaucoup plus large qui est la société de surveillance, qui est grandement facilitée par le fait qu'on soit numérisé. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc on parle là-dessus. On a un gros sujet sur Netflix. Avant son arrivée en France à la fin de l'année. Les autres sujets sont pas forcément très très présents dans l'actualité, ce qui est assez logique pour un trimestriel, parce que sinon dans un mois vous aurez.
Il y a d'autres sujets qui sont d'actualité, mais il y a un traitement qui est un petit peu différent si on prend l'exemple de l'article sur le Bitcoin, la monnaie la monnaie virtuelle. Vous en avez fait un article qui s'appelle 4 façons d'en perdre, 4 façons d'en gagner. C'est vraiment cette idée de vulgariser.
Voilà. Et mine de rien, c'est l'occasion dans ces 4 façons d'un côté comme de l'autre de donner beaucoup d'informations sur un mode rigolo. Donc c'est vraiment c'est symptomatique de la façon dont on voudrait traiter la chose. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est très difficile à expliquer. Tout le monde en parle beaucoup. Mais concrètement, le découper comme ça et montrer comment concrètement on peut en avoir et comment concrètement on peut en dépenser, ça permet de resituer la chose à dimension humaine.
Donc avec un traitement un petit peu humoristique, donc sans qu'il y ait des blagues, mais bon voilà, par exemple, une façon d'en perdre, c'est d'acheter de la drogue sur le darknet, par exemple.
Voilà. Et de se faire livrer des
des laxatifs.
Un peu n'importe quoi.
Très bien. Bon, il y a pas mal de sujets, il y a des gros dossiers, il y a des articles très intéressants. Et puis il y a des focus sur des éléments un petit peu de la vie quotidienne. Il y a un article très intéressant sur les claviers d'ordinateur, le clavier de luxe ou le clavier du hacker. C'est vrai qu'on n'a pas forcément idée quand on utilise un clavier tous les jours comme ça que voilà, il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons de l'utiliser pour d'autres personnes.
Oui, c'est une de nos marottes, c'est d'examiner les objets du quotidien parce que il y a toujours des histoires ou des anecdotes ou des versions assez intéressantes. Et là, effectivement, vous parlez d'un clavier qui a été conçu par un Japonais qui en avait assez de devoir changer de clavier à chaque fois qu'il changeait de machine.
Oui.
Et donc, il a inventé un clavier réduit à sa plus simple expression. Donc, c'est vraiment, c'est réservé aux informaticiens sous Unix qui connaissent par cœur les touches, qui regardent jamais le clavier, qui n'ont pas besoin des touches de fonction ni des flèches comme vous et moi. Donc, vous et moi, on serait incapables de l'utiliser.
Ouais.
Mais alors, ça fait un succès phénoménal. Ils en ont vendu des centaines de milliers d'exemplaires, alors que le truc est super cher. C'est $200 ou $300 là-bas.
Ouais.
Et il y en a même qui se font livrer des versions sans inscription sur les touches, donc entièrement vierges, parce que de toute façon le clavier est en QWERTY par NAZERTY et donc ils veulent pas que ça les trouble.
D'accord.
Donc, voilà, ils sont prêts à payer 350€ un clavier pour n'avoir aucune inscription sur la touche. Donc on raconte l'histoire de la genèse de cet objet.
Oui.
Et c'est vrai qu'on va essayer, moi c'est un peu en rigolant ce que j'appelle les nouveaux totems. On va essayer de parler un peu des objets qui soit ont marqué un peu l'histoire de nos générations, soit sont inconnus et présentent des caractéristiques qui sont amusantes. Et qui sont révélatrices d'une forme d'utilisation.
Donc voilà ce qu'on peut retrouver un petit peu dans ce tout premier numéro d'Humanoïde, qui est un trimestriel. Alors trimestriel pour l'instant, vous espérez passer en mensuel ?
Mensuel, je sais pas, sûrement bimestriel. Donc trimestriel, c'est tous les 3 mois. Si on rencontre le public, on passera certainement en bimestriel, c'est une fois tous les 2 mois le plus vite possible. Mais on veut se garder un peu de temps pour ne pas être dans l'actu, pour pouvoir avoir le temps de laisser reposer un peu les tendances avant de les analyser, voir si elles ont un sens ou pas. Et mensuel, ça me paraît déjà trop rapide en fait.
Ouais.
Donc je préfère rester bimestriel et peut-être
prendre le temps, avoir du recul,
voilà, et peut-être mettre plus de pages, avoir le temps de traiter les sujets plus à fond. Voilà, il y a des sites internet, il y a des journaux qui font le reste très bien. Donc on va rester sur notre calage un peu lent.
Très bien, merci Yvan Godet d'être passé nous voir ce matin. Donc je rappelle le premier numéro d'Humanoïde Magazine qui est dans les kiosques depuis 2 jours.